Deutsche Welle, Info, Matin.
Il est 7h en temps universel, 9h ici à Bonn. Vous écoutez bien la radio internationale allemande. Au micro, c'est Anne Letouzé et Fréjus Kenom, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 29 septembre 2017, la mobilisation de l'opposition togolaise et l'appel aujourd'hui à une journée Togo mort.
Tension au Cameroun à l'approche de la fête nationale du 1er octobre. Dimanche, les séparatistes veulent déclarer symboliquement l'indépendance des régions anglophones et de plus en plus de Camerounais se retrouvent dans leurs revendications sociales.
Le chantier de la grande mosquée d'Alger approche de sa fin, mais ce projet des années d'embellie économique est controversé depuis la chute des prix du pétrole.
Ce matin, c'est Eric Topona qui nous présentera le sport. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. Il sera essentiellement question au cours de cette page de sport, hein, beaucoup de football avec la Bundesliga, le championnat allemand et un peu de football africain.
Merci Eric, rendez-vous dans un petit quart d'heure. Après le sport, ce sera Afrique 7 jours avec Nafissa Amadou pour un retour sur les principaux événements de la semaine. Et on démarre cette édition comme toujours avec le Flash Info. Fréjus, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent en sommet ce vendredi en Estonie.
Un sommet numérique où il sera question de faire avancer les discussions sur l'accès à l'Internet à haut débit à l'échelon européen, le partage d'informations et la lutte contre la cybercriminalité. Mais ces thèmes risquent d'être en partie éclipsés par le débat sur la réforme de l'Union européenne. En effet, ce sommet intervient quelques jours après le discours du président français Emmanuel Macron, discours dans lequel il a fait des propositions de réforme de l'Union. À ce sujet, la chancelière allemande Angela Merkel a dit qu'il y avait beaucoup de points de rapprochement entre elle et le président français.
Alors à Tallinn, où le sommet a lieu, sera également présentée une carte des sanctions de l'Union européenne.
Oui, il s'agit concrètement d'un site cartographiant les différents régimes de sanctions européennes ciblant des pays tiers. L'objectif est d'aider les entreprises européennes à savoir où elles sont autorisées à faire des affaires. Il suffira d'un simple clic sur le pays ciblé ou grâce à des filtres thématiques pour s'informer sur les sanctions.
Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan affichent leur amitié.
Les deux dirigeants russes et turcs se sont rencontrés hier à Ankara où ils ont marqué leur accord sur plusieurs sujets touchant à l'intégrité territoriale. Il s'agit notamment de l'Irak et la Syrie dont les deux hommes disent vouloir préserver l'unité. Vladimir Poutine a indiqué que les deux pays voulaient coopérer dans le domaine des renseignements et de la diplomatie. Les relations entre les deux pays s'étaient refroidies après que la Turquie avait abattu un avion de combat russe dans le ciel turc. C'était en novembre 2015.
Le secrétaire général de l'ONU redoute que la crise en Birmanie se transforme en vivier pour le radicalisme.
Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Antonio Guterres a déploré ce qu'il appelle un cauchemar humanitaire, appelant à la fin des opérations militaires dans la région de Rakhine. En peu de temps, la crise autour de la minorité musulmane Rohingya a provoqué un exode de population record, a-t-il fait noter aux membres du Conseil. Antonio Guterres a aussi condamné les attaques commises par les milices Rohingya. Selon le secrétaire général de l'ONU, les racines de la crise résident dans la politique de discrimination pratiquée depuis des décennies en Birmanie.
L'armée américaine a mené un raid en Libye et tué plusieurs militants de l'organisation État islamique.
Le raid aurait été mené il y a 3 jours en accord avec le gouvernement d'union nationale libyen. Il a ciblé le sud-est de la ville de Sirte. Le groupe terroriste a certes perdu le contrôle de ce territoire depuis l'année dernière, mais des cellules djihadistes y sont demeurées actives. Le chef de l'organisation État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, plusieurs fois donné pour mort, serait-il toujours vivant ? En tout cas, dans un enregistrement audio diffusé hier et qui lui est attribué, l'homme a appelé ses combattants, acculés de toutes parts en Syrie et en Irak, à résister. C'est son premier message en près d'un an de silence. Les États-Unis ont dit effectuer des vérifications sur l'enregistrement audio, affirmant toutefois ne pas avoir de raison de mettre en cause son authenticité.
Et bien, ajoutons qu'au moins 58 membres des forces du régime syrien ont été tués hier dans une série d'attaques surprises du groupe État islamique contre des barrages, notamment dans la province centrale de Homs. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Et c'est la preuve effectivement que le groupe n'a pas dit son dernier mot, malheureusement.
Voilà. On termine, Fréjus, par l'accès au Parlement européen qui est désormais interdit aux représentants de la société Monsanto.
Oui, l'entreprise aurait refusé de se présenter à une audition au Parlement concernant le glyphosate, un désherbant contre controversé produit par Monsanto. Les eurodéputés verts dénoncent un risque élevé pour la santé. C'est la première fois que les lobbyistes d'une entreprise se voient ainsi retirer le droit d'accès aux locaux du Parlement européen.
Merci Frédéric Conom. Il est 7h50 heure universelle, la suite du journal. L'opposition togolaise maintient la pression. La coalition des 14 partis politiques a appelé les Togolais à observer aujourd'hui une journée Togo mort sur toute l'étendue du territoire national. La crise sociopolitique que traverse le Togo n'est pas près de s'apaiser. La correspondance d'Élodie Amène à Lomé.
C'est surtout un appel au recueillement en mémoire des victimes et à une cessation des activités économiques et professionnelles. Pour l'opposition, ce nouveau mot d'ordre décrété « Togo mort » est un moyen de plus pour faire plier le pouvoir et accéder à sa principale revendication, qui est le retour à la constitution de 1992 dans sa forme originelle. Tipi Achadam, le président du PNP, le parti national panafricain membre de la coalition.
Nous annonçons Togo mort vendredi. Voilà un régime qui ne respecte pas les accords signés. Voilà un régime qui ne connaît pas la parole donnée. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse? Il ne nous croit plus. Ford disait « plus de morts pour cause politique ». Mais on continue de tuer. C'est-à-dire que c'est à l'unisson que tous les Togolais sont debout aujourd'hui, de Saint-Cassien à Nero et dans la diaspora, pour réclamer le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora. Et si le pouvoir n'accepte pas à cette demande, il doit partir.
Ce vendredi, l'opposition s'attend donc à ce que le mouvement soit largement suivi sur l'ensemble du territoire national. Nathanaël Olympio, le président du PT, le parti des Togolais.
Et jusqu'à présent, depuis plusieurs semaines en tout cas, les Togolais ont montré leur engagement et leur détermination à œuvrer pour que la démocratie revienne au Togo. C'est une occasion pour que ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir marcher pour différentes raisons de santé ou autres, de pouvoir participer également activement à cette lutte en s'abstenant de travailler, et il faut que les rues de Lomé montrent que le peuple togolais est véritablement outré par les comportements de ce régime, avec les assassinats qui sont opérés sur les citoyens, avec les obligations de déplacement de population, des fuites vers les pays voisins. Tout cela exacerbe le peuple togolais, et la meilleure manière de le montrer, c'est de s'abstenir d'activités sociales, d'activités économiques et d'activités professionnelles.
D'autres manifestations sont annoncées les 4 et 5 octobre prochain par l'opposition.
Voilà, c'était notre correspondante à Lomé, Élodie Amène, et nous allons revenir en fin d'émission sur le sujet avec vos commentaires sur les réseaux sociaux.
Au Nigeria, ce n'est pas journée morte, mais la moitié des écoles n'ont toujours pas été rouvertes dans le nord-est du pays, selon un communiqué de l'UNICEF. Selon l'agence onusienne, ce retard est dû à la crise causée par les attaques récurrentes du groupe armé Boko Haram dans l'état de Borno, en particulier épicentre du conflit. Depuis 2009, près de 2300 enseignants ont été tués et près de 1400 écoles détruites, toujours selon l'UNICEF. Rappelons que le nom Boko Haram signifie « l'éducation occidentale est un péché ».
Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
Le Cameroun se prépare à une journée difficile ce dimanche 1er octobre. Les séparatistes des régions anglophones veulent proclamer symboliquement leur indépendance et ils n'ont pas choisi cette date par hasard puisqu'elle marque la réunification officielle des partis anglophones et francophones du pays. C'était en 1961.
56 ans plus tard, on est bien loin de l'unité, mais la crise qui secoue les régions anglophones depuis novembre 2016 pourrait paradoxalement aider le pays à surmonter nombre de ses handicaps. En effet, les problèmes de pauvreté et de discrimination dénoncés par les anglophones ne sont pas très éloignés de ceux du reste de la population camerounaise. Et de plus en plus de Camerounais jugent même légitimes les revendications sociales de leurs compatriotes anglophones. Les précisions d'Éric Topona.
Tout est parti d'une série de grèves de plusieurs corps de métier dans le nord-ouest et le sud-ouest. Progressivement, le mouvement de protestation a été récupéré par des leaders sécessionnistes. Ces derniers estiment que les populations anglophones sont marginalisées. C'est pourquoi ils ont d'abord exigé le fédéralisme avant de réclamer purement et simplement la partition du pays, comme ce fut le cas au début des années 60. Selon le président du Cercle de réflexion et d'action pour le développement, La crise anglophone servira de rampe de lancement pour la résolution des problèmes que rencontrent les Camerounais. On écoute Denis Atangana.
Ce n'est pas parce que vous avez faim et que vous avez peur de parler que l'autre n'a pas le droit de parler lorsqu'il a faim. Donc ils ont pris un courage de poser leurs problèmes parce qu'il faut le reconnaître. La forme de l'état actuel du Cameroun est un handicap pour le Cameroun. Donc si on avait, par exemple, abouti à une véritable régionalisation, je vous assure qu'on aurait moins de problèmes aujourd'hui. La crise anglophone va permettre de régler la crise de gouvernance qui existe. Elle va permettre de régler la crise de légitimité qui existe. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus le décret qui organise la vie de tous les Camerounais en lieu et place des élections.
Le ministre camerounais de la Communication et porte-parole du gouvernement reconnaît la pertinence de ces revendications. Mais Issa Tioroma Bakary le promet, il n'y aura jamais, jamais de Cameroun.
L'intégrité territoriale de notre nation est un bien inaliénable. Toute la nation camerounaise unie derrière ses dirigeants, en particulier nos forces de défense et de sécurité, toute la nation camerounaise s'érige comme un seul homme pour faire face donc à leur tentative. Leur tentative est vouée à l'échec. Au grand jamais, il n'y aura sécession au Cameroun.
Joint au téléphone par la Deutsche Welle, un membre du bureau politique national du SDF, le Social Democratic Front, le principal parti d'opposition au Cameroun, ce membre du bureau politique national du SDF a donc été formel. Nidjon Frundi, son leader, est contre la sécession, mais favorable au fédéralisme. Réponse d'Issa Tioroma Bakary, la décentralisation entamée au Cameroun suit son cours et il est donc hors de question de changer de cap.
Et à l'approche du 1er octobre, les autorités de la région anglophone du Sud-Ouest ont pris hier des mesures restrictives. Fermeture des frontières territoriales et maritimes, suspension des transports, interdiction de se déplacer entre les localités et interdiction des réunions de plus de 4 personnes dans l'espace public.
Dans la région du Nord-Ouest, un couvre-feu est déjà en place depuis les manifestations du 22 septembre. Les autorités du Sud-Ouest ont également annoncé un renforcement du dispositif militaire et appelé la population à rester calme. Les autorités du Cameroun ont par ailleurs démenti les rumeurs selon lesquelles elles prévoiraient de couper Internet.
Les régions anglophones avaient, rappelons-le, été privées de connexion pendant 3 mois entre février et fin avril, soit la plus longue coupure de ce type en Afrique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit quant à lui profondément préoccupé par la situation au Cameroun. Il a appelé les autorités camerounaises à promouvoir des mesures de réconciliation nationale.
En bref, au Tchad, la ministre de l'aviation civile, Awa Assil, a été démise de ses fonctions par un décret présidentiel. Aucune raison n'a été avancée pour son limogeage, mais il survient alors que la ministre venait de suspendre le directeur de l'autorité de l'aviation civile et alors qu'un avion de l'opération Barkhane s'est écrasé au décollage hier matin à N'Djamena.
En République démocratique du Congo, le gouvernement affirme avoir nettoyé de toute présence rebelle la ville d'Uvira dans le sud Kivu, à la frontière avec le Burundi. Des combats ayant opposé ces derniers jours les forces armées congolaises à des miliciens Maïmaï Yakutumba. Le calme est revenu dans la ville et ses environs, selon les autorités congolaises.
Le chef de la milice, l'ancien officier William Yakutumba, avait affirmé lundi dans un enregistrement audio vouloir chasser le président Kabila du pouvoir. La crise politique en RDC a justement été à l'agenda de la semaine de l'Afrique organisée cette semaine au Parlement européen de Bruxelles par le groupe des socialistes et démocrates.
Et dans ce cadre, l'eurodéputée Cécile Kyenge, elle-même d'origine congolaise, a pris position sur la dégradation des droits de l'homme en RDC. Elle a notamment affirmé qu'à ses yeux, toutes les institutions du pays sont illégitimes et que seules des élections libres et transparentes pourraient sortir le pays de la crise. L'eurodéputée a aussi réaffirmé que s'il devait y avoir une transition en RDC, celle-ci ne devra pas être conduite par Joseph Kabila. On l'écoute au micro de Wendy Bashi.
Il faut nécessairement qu'on puisse arriver à une résolution de la crise politique et surtout à une alternance. La position de l'Union européenne est claire. Le Parlement va continuer à vigiler sur ça. D'ailleurs, on demande encore plus de sanctions. Mais on doit aller plus loin, jusqu'aux responsables qui sont à la base de la crise politique, d'où les massacres en République démocratique du Congo. Le mandat du président Kabila a expiré à la fin du mois de décembre. Donc il est là grâce à ses accords. Il a tout intérêt à pouvoir les respecter. Moi, je dois respecter la position du peuple congolais. Mais ma position personnelle est que toute transition doit se faire sans le président Kabila. Et d'ailleurs, même maintenant que nous sommes en train d'aller aux élections, je crois que des élections crédibles, transparentes, devraient arriver après une période de transition sans le président Kabila.
l'eurodéputée Cécile Kyenge. Au Rwanda, l'organisation Human Rights Watch dénonce une répression politique après la réélection du président Paul Kagame. Opposants arrêtés ou victimes de harcèlement, menaces et intimidations. Selon l'ONG, le pouvoir rwandais ne tolère pas la critique et n'accepte pas non plus que les partis d'opposition jouent un rôle. Paul Kagame, on le rappelle, a été réélu avec plus de 98% des voix le 4 août dernier.
Au Burundi voisin, c'est Amnesty International qui attire l'attention sur les pressions de plus en plus fortes que subissent des milliers de réfugiés. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organisation reproche aux autorités burundaises d'inciter les réfugiés à rentrer de Tanzanie et d'Ouganda malgré les risques sécuritaires dans leur pays. Amnesty souligne un climat de peur généralisé au Burundi alors que les autorités affirment que tout va bien.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Et vous êtes toujours à l'écoute d'Infomatin. Il est 7h15 en temps universel. Cap sur l'Algérie où le chantier de la Grande Mosquée approche de la fin avec une livraison annoncée pour 2018.
Oui, Anne, c'est l'un des grands chantiers lancés par le pouvoir algérien pendant l'embellie financière des années 2000. Mais la construction suscite désormais la controverse car entre-temps, les prix du pétrole ont chuté et l'Algérie est entrée dans une grave crise économique. Les Algériens considèrent maintenant la Grande Mosquée comme une dépense excessive à Alger. Le récit de notre correspondant Tarek Draoui.
Grande mosquée d'Alger. La cadence du chantier est passée à la vitesse supérieure depuis que l'ex-premier ministre a piqué une colère en visitant le chantier. L'édifice devait être livré à la fin de cette année. Visiblement, il va falloir attendre encore une à deux années. Un retard qui n'offusque pourtant pas les Algériens. Pour beaucoup ici, c'est plutôt la construction de cette mosquée qui pose problème. C'était une erreur. Le pays a plus besoin d'autre chose. Nos hôpitaux sont des mouroirs. C'est de l'argent dilapidé. Argent dilapidé, les Algériens confrontés à une crise aiguë depuis plus de 3 ans voient dans le projet un fait du prince. Le président aurait dû penser à nos écoles. Nos enfants n'ont pas de cantine, ni de transport, ni de chauffage. Et on jette des milliards dans un édifice sans intérêt. La construction de la grande mosquée a été décidée par le gouvernement afin de donner une direction religieuse au pays. Se soustraire aux idéologies intégristes qui ont fait tant de mal au pays dans un passé récent. Najib Assoul, spécialiste en communication.
Le choix laisse peut-être perplexe devant les défis socio-économiques de l'Algérie. Maintenant, ce qui est fait, cette mosquée est déjà bien entamée. On peut effectivement espérer qu'elle joue un rôle socio-culturel dans une région qui me semble où l'hyper-religiosité devient extrêmement dangereuse pour la société.
La grande mosquée passe pourtant toujours mal aux yeux des Algériens. Avec un montant de plus de 1,3 milliard de dollars, son coût apparaît comme une gabegie, alors que le gouvernement vient d'annoncer qu'il risque de ne plus payer les fonctionnaires. Tarek Draoui, à Alger, pour la Deutsche Welle.
7h18 en temps universel, c'est l'heure du sport avec Eric Topona.
Deutsche Welle, le sport.
Et nous ouvrons cette chronique par du football, évidemment, par la Bundesliga, le championnat allemand.
Oui, Anne, avec la victoire hier du Rotter Stern aux dépens du FC Köln, 1-0. Ce vendredi, il y aura deux rencontres, à savoir Schalke 04 qui croisera les crampons avec le Bayern Leverkusen. Samedi, Augsbourg jouera contre le Borussia Dortmund. Hanovre va s'opposer au Borussia Mönchengladbach. Eintracht Francfort contre Stuttgart, Wolfsburg contre Mayence et Hambourg contre Werder Bremen. Et bien sûr, hein, la Deutsche Welle sera au rendez-vous avec la retransmission en direct du match Augsbourg-Borussia Dortmund. Et aux manettes, Ali Farhad et Sophie Sermini.
Alors, Eric, toujours en football, le Bayern Munich dit tchuss à Carlo Ancelotti.
C'est bien cela. Et le Bayern Munich a donc décidé de se séparer de son entraîneur avec effet immédiat. L'annonce a été faite hier et l'Italien a été licencié au lendemain d'une défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain, le PSG. Et c'est un Français, l'ancien international et star du Bayern, Willy Sagnol, qui remplace provisoirement notamment Carlo Ancelotti. Il faut préciser que le Bayern, troisième au classement du championnat d'Allemagne, reste en course en Bundesliga, le championnat allemand, et n'est donc pas éliminé en Ligue des Champions.
Et nous restons dans le thème football et sur le continent africain, Eric, avec cette bonne nouvelle pour les Panthères du Gabon.
Une très bonne nouvelle même, Fréjus, puisque l'attaquant du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, a annoncé qu'il se remettait à la disposition de la sélection nationale en prévision des éliminatoires du Mondial 2018. Et pour joindre l'acte à la parole, eh bien Pierre-Emerick Aubameyang participera au match qui va opposer les Lions de l'Atlas, c'est l'équipe nationale du Maroc, aux Panthères du Gabon. Le match est prévu le samedi 7 octobre prochain. Et puis, pour finir, l'entraîneur de l'Espérance Tunis, Fawzi Benzarti, a annoncé hier jeudi, lors d'un point de presse, qu'il n'allait pas démissionner, contrairement aux rumeurs qui ont pourtant circulé ces derniers jours. Je resterai le coach de l'Espérance de Tunis, même après la démission du président du club, Hamdi Medeb. C'est M. Medeb qui m'a dissuadé de démissionner, a expliqué le technicien qui a dit rester donc en attente de la décision de ses dirigeants. Des informations, il faut le préciser, qui ont été relayées par le journal en ligne Afrique.com. Et c'est tout donc pour ce point de sport. Et je vous retrouve tout à l'heure dans notre édition de 17h temps universel.
Merci Eric Topona. Et maintenant, place à Nafissa Amadou pour Afrique 7 jours, un extrait d'Afrique 7 jours.
Deutsche Welle. Afrique 7 jours. La semaine a été marquée par le Tchad. Le Tchad qui fait partie désormais des 8 pays dont les ressortissants sont indésirables sur le sol américain. Washington reproche officiellement à N'Djamena un manque de collaboration et d'échange d'informations en matière de lutte contre le terrorisme. Une annonce qui a surpris les autorités tchadiennes. Je vous propose d'écouter la réaction du ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Sabre, à l'annonce de la décision.
C'est un sentiment d'incompréhension. Nous sommes en contact avec nos amis américains pour essayer de comprendre. Malgré cette décision, l'administration américaine reconnaît l'engagement du gouvernement du Tchad dans la guerre contre le terrorisme. Mais la question peut-être du contrôle du flux humain qui passe par le Tchad.
L'ambassadrice des États-Unis au Tchad a été convoquée par les autorités. Suite à cette décision, à la sortie de la rencontre, l'ambassadrice a affirmé que les États-Unis n'ont jamais accusé le Tchad d'héberger les terroristes. Elle a également ajouté que les relations et la coopération entre les deux pays ne seront pas affectées par cette décision. Toujours par rapport à cette mesure, notre analyste Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint des Affaires étrangères, chargé de l'Afrique sous George Bush, que vous avez déjà entendu sur nos ondes, pense que le Tchad est un allié incontournable des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et l'administration américaine devrait se rendre compte assez vite de son erreur. La situation politique en RDC continue de se détériorer avec en filigrane l'incertitude quant à la tenue de l'élection présidentielle d'ici à la fin de cette année. C'est pourquoi une vingtaine d'eurodéputés des principaux groupes politiques ont lancé ce mardi à Bruxelles un parrainage de certains militants de la société civile. Ce mécanisme aura pour avantage de mieux protéger les défenseurs des droits humains en RDC. On écoute à ce sujet l'eurodéputée socialiste belge Maria Arena.
Ce n'est pas partisan dans la mesure où il y a une vingtaine d'associations qui sont des associations nationales, qui sont des associations du terrain congolais. Et notre objectif en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est de garantir que ces personnes qui travaillent au quotidien dans ces associations ne soient pas menacées par le pouvoir congolais parce que tout simplement, ils défendent la démocratie congolaise.
Autre fait ayant marqué l'actualité en début de semaine, c'est bien sûr la victoire de la chancelière allemande Angela Merkel aux élections législatives en Allemagne avec 33% des suffrages. Mais la victoire a un goût amer car elle est moins large que prévu. Cette contre-performance a suscité des inquiétudes en Afrique. Baldal Oyamta, coordonnateur de la LTDH, la Ligue tchadienne des droits de l'homme, redoute qu'un pouvoir affaibli à Berlin soit moins capable de conduire des initiatives en Afrique. On l'écoute.
On aurait aimé que Mme Angela Merkel ait un vote beaucoup plus confortable pour regarder un peu les questions qui se posent en Afrique et particulièrement au Tchad. Si on considère effectivement l'alliance proposée par M. Hollande au 7e sommet de l'Union européenne sur lequel il souhaite que l'Allemagne travaille avec la France sur 3 points, à savoir la sécurité, le développement et le changement climatique, nous on aimerait bien avoir donc une position un peu différente de Angela Merkel dans son engagement en Afrique.
Terminons cette revue de l'actualité avec l'Ouganda, où une bagarre a opposé des députés dans l'enceinte du Parlement. Des coups de poing et des chaises lancées à travers l'Assemblée. L'incident s'est déroulé mardi lors de la présentation d'une motion qui devrait permettre au président Yoweri Museveni de se présenter pour un 6e mandat en 2021. Voilà. C'est tout pour cet extrait d'Afrique 7 jours. On se retrouve dimanche pour l'intégralité du magazine avec deux autres rubriques que sont la Faux Presse avec Hugo Flotatalon et Blogosphère avec le blogueur tchadien Evariste Tcheteke. Nous allons revenir sur la décision du président américain Donald Trump interdisant tout séjour sur le sol américain aux ressortissants tchadiens. Alors Evariste, dites-nous comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ?
Moi, personnellement, je ne suis pas surpris du fait que Trump a décidé de faire la guerre aux dictateurs africains.
Je vous laisse avec ce proverbe africain, celui qui se lève tard ne voit jamais la tortue se brosser les dents le matin. À la semaine prochaine.
À vous la parole.
Et vous avez été nombreux à vous exprimer sur la journée Togomore à laquelle a appelé l'opposition ainsi que sur la situation politique du pays. Vos réactions compilées par Rémi Mallet.
Pour Bosco d'Atakpamé au Togo, cette journée est la bienvenue. Car selon lui, la situation politique de son pays est arrivée à un niveau où il faut un équilibre des rapports de force pour faire plier la dictature cinquantenaire. Même s'il s'incline devant la mémoire des disparus des précédentes manifestations de l'opposition togolaise, Razak de Sokodé estime qu'organiser une journée Togo mort n'est pas une bonne stratégie au vu des difficiles conditions économiques des populations. Bewozima Alomé regrette pour sa part que chaque fois que l'opposition lance la cessation de toute activité professionnelle et économique, leurs militants s'en prennent à ceux qui n'observent pas la journée Togo mort et profitent pour piller et voler. Pour Arles de Kara dans le nord du pays, cette journée n'a simplement pas lieu d'être.
Ils disent Togo mort pour qui ? Pour qui ? Eux-mêmes, ils ne travaillent pas. Ils veulent faire Togo mort. Ils disent qu'il n'y a pas d'emploi au Togo. Et Togo mort, pourquoi ? Pourquoi le Togo mort ? Moi, je trouve que vraiment, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont qu'à aller se reposer.
L'opposition togolaise réclame le départ du président fort Yassingbé, arrivé au pouvoir avec le soutien de l'armée en 2005 à la mort de son père, le général Yassingbé Yadema. Le gouvernement a proposé un projet de réforme constitutionnelle prévoyant notamment de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Toutefois, l'opposition rejette ce texte en dénonçant la non-rétroactivité de la mesure qui permettrait à M. Yassingbé de se présenter aux élections de 2020 et 2025. Pour faire baisser la tension, Christophe, notre auditeur de Lomé, souhaiterait que la communauté internationale s'implique davantage.
Il doit y avoir un médiateur entre l'opposition et le pouvoir. Si c'est que le pouvoir et l'opposition, il n'y aura aucune compréhension. Ceux qui se disent les organisations internationales, il faut qu'ils viennent jouer de médiateur entre l'opposition togolaise et le pouvoir en place. C'est ça la seule solution.
En attendant, si son appel sera entendu ou pas, pouvoir et opposition continuent de se regarder en chien de faïence.
Alors Fréjus, on arrive à la fin de cette émission. Rapidement, ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 29 septembre.
Togo mort ce vendredi, journée de mobilisation de l'opposition qui exige le départ du président Fornia Simbé. La suite au Tchad du décret migratoire américain qui classe le pays sur une liste rouge. Le sommet informel de l'Union européenne en Estonie où il est question de numérique.
Merci Fréjus et merci à tous d'avoir suivi Info Matin sur la Deutsche Welle. Rendez-vous à 17h en temps universel pour une heure d'information et de magazine. Tchuss!
À ce soir!